m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais...
Oui. Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Calme, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ses ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour à tous, vous êtes bien dans Restons Courtois, l'émission de débat sur Radio Courtoisie, chaque jour en direct de 17h30 à 19h30. Au programme de cette émission, comme chaque mercredi, deux invités. Nous recevons tout d'abord Diane de Bourguédon, qui publie Les Indésirables, Prolophobie, paru aux éditions Fayard dans la collection Pensée Libre, très belle collection. Un livre sur la France oubliée, celle qui vit loin des métropoles et que les élites aiment mépriser. Un mépris que Diane de Bourguédon nomme d'un mot nouveau, la prolophobie. À 18h30, nous recevons Laurent Dollet pour son livre Ava Gardner, des films aux mythes, aux éditions Leitmotiv. Non pas une biographie de plus, mais une exploration sur la façon dont Hollywood a construit un mythe à partir d'une femme réelle et comment Ava Gardner, elle, a construit sa vie à partir de ses rôles. Alors, comme chaque mercredi, évidemment, je vous rappelle, chers auditeurs, que vous pouvez participer à l'émission, poser vos questions à nos invités par courriel ou par téléphone au 01 46 51 00 85. Diane de Bourguédon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous publiez Les Indésirables, Prolophobie, hop, je cadre ici, aux éditions chez Fayard, et donc dans lequel vous affirmez, démontrer que dans les multiples fractures françaises, il y en a une qu'on n'ose jamais nommer, c'est ce que vous appelez la prolophobie. Donc non seulement les élites ont tourné le dos aux classes populaires, mais en plus, elles les méprisent, et ouvertement. Alors, vous dites que ce n'est pas une idéologie revendiquée, mais un réflexe de classe diffus, banalisé, et d'autant plus dévastateur qu'il se donne des airs de vertu progressiste, comme à chaque fois. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on a une tradition dans cette émission, celle de passer nos invités à la question.
Ne perdons pas notre temps.
Ils peuvent me tuer, je parlerai pas.
Mais moi non plus, ils peuvent vous tuer, je ne parlerai pas.
C'est vous.
Ah, c'est comme ça. Nous avons les moyens de vous faire parler.
Diane de Bourguédon, vous êtes plutôt Patrick Sébastien ou Alexandre Jardin ?
Alors, sur le fond, clairement Alexandre Jardin, je trouve que le combat qu'il mène actuellement avec les gueux est très pertinent et j'apprécie énormément de le lire. Sur la forme, je ne renierai pas une certaine forme de paillardise portée par Patrick Sébastien et que je trouve amusante.
Quelle est votre chanson préférée de Patrick Sébastien ?
Je ne suis pas experte du registre de Patrick Sébastien, je le reconnais, mais en tout cas j'apprécie la façon, la paillardise, la grivoiserie qu'il inspire dans la chanson française.
Le film le plus prolophobe, pour reprendre votre expression, de tous les temps.
Bah, clairement, je pense que c'est Dupont-Lajoie. J'ai un petit peu l'impression qu'à partir de la sortie de ce film, on a basculé dans une dimension où il était parfaitement normal de se moquer de la figure du beauf du matin au soir.
Le truc de bobo qui vous fait le plus envie malgré vous.
Alors, j'avoue que par moments, je me laisserais peut-être tenter par des stages de cuisine bio-équitable pour manger bio et équilibré, mais je me restreins et mon mari m'y restreint aussi.
Quel saint homme. Le mot ou l'expression qu'on n'entend jamais dans un cocktail parisien, mais qu'on entend dans n'importe quel café de province.
Je dirais à la tienne, Étienne.
Et inversement, le mot ou l'expression qu'on n'entend jamais dans un café de province, mais qu'on entend dans tous les cocktails parisiens.
Tu n'aurais pas une adresse d'un café kids friendly ?
C'est-à-dire quoi, kids friendly ?
Bah, un café qui accepte les enfants.
Ah, d'accord. Le politique, en activité qui excelle dans le mépris de classe.
Ouais, je pense qu'on peut pas vraiment dire une autre personne que Emmanuel Macron.
Ouais, Gilles Legendre est pas mal. Hein. Et Raphaël Glucksmann ? Ouais, ça fait quand même du monde. Hein. Et le journaliste en activité ?
Yann Barthès,
parce qu'il est vraiment journaliste. Vous êtes plutôt camping ou les tuches ?
Plutôt camping.
Le roman idéal pour aimer les prolos ?
Alors ça date un petit peu, mais je dirais Germinal.
Le roman... non, ça c'est déjà fait. Le petit plaisir beauf dont vous avez quand même un peu honte.
Disons que j'aimerais pas être vu en train de manger un sandwich industriel à la rosette sur une aire d'autoroute.
Vache ! Si le beauf était un animal ?
Je dirais le labrador. C'est un animal fidèle, serviable et affectueux.
Et enfin, le bobo. S'il était un animal, ce serait quoi ?
Un lama qui vous crache dessus même quand vous lui parlez gentiment.
Merci Diane de Bourguénon. Alors, commençons par vous. Comme disaient les Trotsko, d'où parlez-vous Diane ? Quel est votre parcours ?
Alors moi je fais du conseil en stratégie et en communication et par ailleurs je m'intéresse beaucoup à la politique et aux sujets de société et j'écris régulièrement des tribunes dans Figaro, Vox, JDD et j'ai été amenée à vouloir développer certaines idées et en particulier la notion de prolophobie. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre.
Est-ce que vous connaissez les ploucs ? Est-ce que vous aimez les ploucs ?
Bah écoutez, j'ai appris en fait à sortir un petit peu justement du regard qui est courant dans le milieu social dans lequel j'ai évolué, qui est un milieu assez aisé, dans lequel c'est presque naturel en fait d'être snob en fait, d'être animé de snobisme. Et je dirais que à la fois par le regard d'amis étrangers qui me demandaient mais pourquoi les gens en France sont-ils aussi snob et aussi méprisants, et puis également ce qui m'a vraiment fait prendre conscience d'une souffrance chez la plupart des Français, c'est évidemment comme plein de gens derrière les gilets jaunes. Naturellement, au moment de la crise des gilets jaunes, j'ai été en empathie en fait avec ces personnes-là, et je me suis rendu compte avec un petit peu de tristesse que c'était pas le cas de la majorité des personnes de mon entourage.
Et alors, est-ce que vous vous rappelez des réactions parce que bon, je suppose qu'il y avait aussi un ressenti, non pas sur ce que les gilets jaunes pensaient, mais ce que vous étiez peut-être choqué par des remarques ou par des analyses de votre milieu, de notre milieu sur le sujet des gilets jaunes. Est-ce que vous vous rappelez un peu de l'ambiance et ce qu'on disait ?
Alors, moi, ce qui m'a frappé, c'est que il y a peut-être eu au départ chez beaucoup de personnes des élites un regard peut-être curieux, un peu étonné, et assez rapidement, avec l'aide bien sûr des médias qui ont amplifié cela, et puis l'intrusion par des mouvements activistes comme les Black Blocs, un regard de hantise en fait qui a été jeté sur les gilets jaunes, qui les a complètement décrédibilisés dans la bourgeoisie, et surtout qui a, j'ai l'impression, suscité la crainte d'un bouleversement d'un statu quo qui leur est favorable. Parce que aujourd'hui, même si une partie des élites assez faibles d'ailleurs n'apprécie pas la politique actuelle, elle leur est quand même largement favorable. Et les gilets jaunes portaient un ferment de révolte qui inquiète dans les beaux quartiers parisiens.
Et ils sont inquiets de quoi ?
Bah, ils sont inquiets d'un renversement de l'ordre, je pense. Ils sont inquiets si vous voulez, j'ai vraiment le sentiment que dans les classes supérieures françaises, il y a cette idée que les Français sont des Gaulois réfractaires et râleurs, et que finalement, quand ils descendent dans la rue pour demander quoi que ce soit, ce sont des enfants gâtés, qui sont déjà très largement protégés par le système de protection sociale français, qui est par ailleurs, en effet, assez généreux, mais la question serait de savoir qui protège exactement. Ce n'est peut-être pas forcément les travailleurs pauvres qu'ils protègent le plus. En tout cas, la redistribution ne favorise pas forcément les travailleurs les plus pauvres. Et donc, il y a un regard suspicieux et en même temps accusateur de la part des élites vis-à-vis des couches populaires et moyennes qui sont vues comme des enfants gâtés, finalement, qui ne sont jamais contents, alors que pourtant, ils devraient l'être avec toute la protection sociale dont ils bénéficient.
Vous avez fait un peu de politique ? Vous avez milité et même été candidate au Parti chrétien démocrate. Est-ce que c'est là qu'est née une fibre sociale ou c'est au contraire parce que vous aviez une fibre sociale que vous avez rejoint ce parti ?
Je pense que c'est apparu, si vous voulez, ça a été concomitant avec mon engagement politique, a été par hasard d'ailleurs concomitant avec l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et j'ai assez vite perçu chez lui ce qui existait de manière un peu plus larvée chez ses prédécesseurs, ce mépris de classe ostentatoire. À l'époque de Hollande, il disait dans la sphère privée l'ascendant, mais il ne le disait pas au micro. On a l'impression qu'avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, il n'y a plus aucun complexe avoir des propos méprisants, avoir des propos humiliants vis-à-vis de la plupart des Français. Et d'ailleurs, ces propos sont notés par une certaine presse, je dirais plutôt de droite, mais l'immense majorité des médias ne relèvent pas ces propos-là, comme si c'était parfaitement normal de traiter les Français de gens qui ne sont rien, de « je traverse la rue, je vous trouve un job » et j'en passe. J'ai vraiment le sentiment d'une bascule avec l'arrivée d'Emmanuel Macron, donc il se trouve que ça s'est produit de manière concomitante avec mon engagement politique.
Et pourquoi vous avez arrêté votre engagement politique, j'allais dire militant au sein d'un parti ?
Alors ça, c'est vraiment une question qui est liée à ma personnalité. Je pense que les idées qui sont promues par ce parti politique qui aujourd'hui s'appelle VIA, je me correspondent tout à fait, je ne les renie pas du tout. En revanche, sur le terrain de l'action et de mon engagement, en tout cas au service de la cité, je me sens plus à l'aise dans le combat des idées et donc dans ce genre d'exercice que dans le combat partisan.
Mais alors justement, avant de céder la parole à Rémi Carlu, loin de moi l'idée de parler de mépris de classe, mais c'est vrai qu'on voit souvent cette idée de combat des idées ou de métapolitique dans les classes dites supérieures ou dans les classes élitistes, et qu'on laisse le militantisme et la politique de terrain aux gens de classe moyenne ou de petite classe. Est-ce qu'il n'y a pas, je ne peux pas faire mon marxisme, mais est-ce qu'il n'y a pas une logique de classe aussi là-dedans ?
Bah écoutez, ça a peut-être été vrai à un moment donné, mais aujourd'hui, quand vous pensez que, par exemple, la majorité des députés sont issus de la bourgeoisie, autrefois, il y avait une représentativité de toutes les classes sociales, pas forcément de manière proportionnelle à la représentativité dans la société, mais en tout cas, au sein de l'Assemblée, il y avait une représentativité. Aujourd'hui, vous avez que des représentants des classes supérieures. Donc, j'ai bien peur qu'en réalité, il y ait tout un tas de domaines qui soient aujourd'hui désinvestis. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a des barrières à l'entrée ? Je pense en partie. Est-ce que c'est parce qu'une grande partie du peuple ne croit plus tellement au combat politique et d'ailleurs, cela se voit dans l'abstention qui est aujourd'hui le premier parti politique de France. Mais je ne sais pas si... en tout cas, dans les partis politiques aujourd'hui, on a aussi ce déséquilibre dans la représentativité des classes sociales et qu'on voit hélas partout, j'ai envie de dire.
Rémi Carlu.
Oui, je voudrais rebondir sur vos propos sur le système social. Moi, je suis plutôt d'accord avec vous pour dire qu'il y a une partie de ces Français qui sont effectivement oubliés de nos élites. Et en même temps, nos élites ont développé un système social extrêmement généreux qui assiste ces Français au quotidien. Comment tenir ensemble, disons, ces deux propositions qui peuvent paraître contradictoires ?
Bah, c'est tout à fait exact, c'est-à-dire que d'un côté on a l'impression qu'elle les critique pour être ce qu'elles appellent l'assistanat social finalement, et de l'autre elles l'ont mis en place. Alors je pense qu'il y a une distinction à faire au sein de la bourgeoisie entre la bourgeoisie dite de gauche et la bourgeoisie dite de droite. C'est sûr que les discours les plus véhéments sur la générosité et même parfois l'obésité de la sécurité sociale, on les entend plutôt dans les sphères du patronat et de la bourgeoisie marchande, je dirais, que dans la sphère de la gauche culturelle. Mais quoi qu'il arrive, il est évident que nos politiques et les politiques qui ont été menées depuis le lendemain de la Deuxième Guerre mondiale ont favorisé la création d'une protection sociale qui est devenue au fil du temps assez obèse. Mais sans vouloir jeter un pavé dans la mare et ouvrir sur un sujet immense, aujourd'hui, un quart de la dépense publique, elle est consacrée aux retraites. Donc c'est vraiment aujourd'hui le principal poids dans la protection sociale, c'est la retraite. Et la politique de redistribution, elle fonctionne plus envers les inactifs, au global, que ce soit d'ailleurs les retraités, qu'envers les actifs des classes populaires.
Marc Aubrion.
Oui, dans votre livre, vous faites remonter finalement le mépris de classe, on va dire, à mai 68, qui, rappelons-le, était un combat commun entre le monde ouvrier et le monde étudiant. Le monde étudiant s'est mis à regarder le monde ouvrier un peu de haut, donc c'est là que ça a commencé, selon vous. Mais est-ce que les origines du mal ne sont pas plus profondes et plus lointaines ? Est-ce qu'on ne pourrait pas les faire remonter carrément à la révolte jacobine, au moment où le jacobinisme, finalement, a provoqué l'entre-soi du monde bourgeois au mépris déjà de la paysannerie, par exemple.
Bah oui, vous avez parfaitement raison. Alors après, il y a eu des mouvements de va-et-vient dans l'histoire de France, mais en effet, la révolution jacobine, elle a été, sur le plan idéologique, elle a été pensée par beaucoup de personnes de l'aristocratie, ou en tout cas de la grande bourgeoisie, les philosophes des Lumières. Et puis après, concrètement, lorsque la révolution française s'est produite, et en particulier la terreur, elle s'est faite largement à rebours des paysans d'ailleurs, peut-être que je fais une erreur en disant ça, mais je crois que la plupart des personnes qui ont été massacrées pendant la terreur ont été issues du milieu paysan. Donc effectivement, c'est pas la première fois. Et c'est peut-être l'histoire qui se répète. En tout cas, on est à nouveau dans une situation assez forte, il me semble, de sécession entre, d'une part, la bourgeoisie qui habite les grandes villes, qui est cosmopolite, etc., et le reste des Français. Et c'est peut-être un nouvel épisode de quelque chose qui s'est déjà produit auparavant.
Alors, d'où vient, quel est le déclencheur de l'écriture de ce livre ? Parce que vous avez parlé des Gilets jaunes. Gilets jaunes, on est 2018. Là, on est en 2026. Donc, si je ne suis pas trop nul en maths, qui est quand même mon cas, on est à 6 ans. 8 ans, voilà, je suis nul en maths. Je vous l'avais dit, hein, je suis nul en maths. 8 ans. C'est quoi le déclencheur ? Est-ce qu'il y a une actu particulière qui vous a dit il faut vraiment, il faut pas que ce mépris de classe, cette haine de classe, on reviendra d'ailleurs dans la différence entre le mépris de classe et la haine de classe qui est importante, soit passée sous silence ?
Bah écoutez, oui, c'était il y a très exactement un an. J'étais en train de me plonger dans un rapport de Fondapol sur le thème qui a été fait sur le thème de l'euthanasie en prévision des projets de loi à venir. Et je découvrais en lisant ce rapport qui se base beaucoup sur des données de pays, enfin de données de l'étranger dans des pays où l'euthanasie est pratiquée, et en particulier des données au Canada. Et j'étais très frappée de voir, enfin en tout cas ça saute aux yeux quand on lit le rapport, c'est que en fait quand on crée une offre, souvent on crée une demande. Et en réalité, dans ce rapport, il montre que de plus en plus de personnes demandaient à avoir l'euthanasie pour des raisons socio-économiques. Et ça va en fait assez loin parce que il y a eu un sondage qui a été fait également au Canada qui montrait que un tiers des Canadiens trouvaient tout à fait normal de demander l'euthanasie pour des raisons socio-économiques en l'absence de toute pathologie. Et ça m'a énormément frappé et je me suis dit, mais en fait, quel bon moyen pour se débarrasser en fait de tout le monde finalement, que d'inciter beaucoup de gens, et en particulier dans les classes pauvres, à recourir à l'euthanasie. Et c'était le déclencheur de l'écriture de cet essai.
Et comment s'est passée l'écriture ? C'est votre premier essai ? Donc, nouveau-né, c'est jamais évident, le premier accouchement est souvent difficile. Comment s'est déroulée l'écriture ?
Ah, je dis d'ailleurs que c'est mon deuxième enfant, après mon fils, toute proportion gardée. Je dirais que la difficulté, moi je réfléchis quand même souvent à beaucoup de sujets et j'écris des tribunes, et l'écart entre une tribune et un essai, c'est le plan en fait, parce que dans une tribune on développe une idée, et dans un essai, mais à partir du moment où j'avais établi le plan, je dois dire que ça s'est déroulé de manière assez fluide.
Alors, le titre c'est Les Indésirables. C'est qui sont les indésirables ? Est-ce que vous pouvez nous faire une sorte de portrait robot de l'indésirable ?
Alors l'indésirable, c'est le français qui n'a l'heure d'appartenir ni à la bourgeoisie cosmopolite des grandes villes, ni aux classes immigrées. Je suis assez frappée dans les discours qu'on entend de plus en plus dans les médias par l'utilisation, l'emploi de la formule « les quartiers populaires » ou « fêtes populaires ». En général, la plupart du temps, cela désigne les quartiers à forte densité issus de l'immigration. Et je tiens, dans mon ouvrage en tout cas, à faire la différence, parce que ce mot, enfin les quartiers populaires aujourd'hui, sont employés à mon avis pour invisibiliser le peuple autochtone, les Français ordinaires finalement, puisqu'on va dire il y a énormément de subventions, de quoi se plaignent les Français, énormément de subventions sont versées aux quartiers populaires. Oui, mais précisément, les quartiers populaires ne sont pas la France périphérique. Donc il y a vraiment aujourd'hui, je pense, trois composantes dans le peuple. La bourgeoisie déconnectée, les Français ordinaires et les Français issus d'immigration. Et je crois que chacune de ces catégories n'a pas les mêmes réflexes, les mêmes ressorts, les mêmes inquiétudes et les mêmes désirs.
Rémi Carlu.
Oui, ce qui réunit la population issue de l'immigration et les grandes métropoles, c'est la question géographique. En fait, le clivage, je trouve, sociologique ou social que vous mettez en avant recoupe complètement un clivage géographique, et c'est ce qui est assez frappant dans la situation actuelle, c'est-à-dire que ces populations ne se rencontrent plus.
C'est exactement ça. En fait, c'est à partir des... Alors, pour Paris, c'est très clair, mais c'est pareil dans les autres grandes villes. À partir des années 80, il y a eu la volonté d'extraire les activités non seulement agricoles, mais principalement, je dirais, artisanales et industrielles de Paris. Dans une idée du grand tournant libéral, il fallait que Paris se convertisse à la modernité et devienne une ville productrice exclusivement de services. Donc petit à petit, on a chassé déjà les lieux de travail, hein, donc les usines, les endroits où était pratiqué l'artisanat. Et puis s'est ensuivi de ça une montée des prix des logements. Et donc mécaniquement, tout un tas de personnes ne pouvaient plus accéder de toute manière au logement dans les grandes villes. Il y a beaucoup de données qui existent aujourd'hui sur le fait qu'on se rend compte que les HLM sont octroyés de manière pas forcément parfaitement impartiale. Et notamment, quand on a des contacts avec certaines mairies, ça peut aider. Et puis on sait aussi que l'immigration est très largement avantagée pour l'octroi des HLM. Donc mécaniquement, géographiquement, en tout cas, les Français des classes populaires et moyennes se retrouvent complètement, je dirais, marginalisés. Et ce que vous disiez est tout à fait vrai, c'est que quand on ne se voit plus, quand on ne se fréquente plus, quand on ne se côtoie plus, on ne se parle plus. Et quand on se parle plus, on ne se comprend plus. Je crois qu'il y a vraiment une rupture de compréhension, presque comme si on ne parlait plus vraiment la même langue. Et c'est terrible parce que c'est la sécession dont je parlais tout à l'heure, elle n'est pas que géographique, elle est également symbolique, culturelle et métaphysique, je pense.
Justement, dans votre livre, vous décrivez le mépris, la relation verticale descendante, donc le mépris du haut vers le bas. Est-ce qu'en sens inverse, il n'y a pas quelque chose qui s'appelle presque de la haine maintenant, je trouve, en tout cas vis-à-vis d'Emmanuel Macron, ça me paraît assez clair, mais j'ai l'impression qu'il n'y a jamais un président qui était aussi vraiment détesté. François Hollande a pu être méprisé, je pense, mais Macron est vraiment détesté. Donc, c'est-à-dire qu'en réponse au mépris, il y a un sentiment, alors moi j'ai l'impression que c'est de la haine, mais peut-être vous avez un autre diagnostic, qui rend cette réconciliation, disons, d'autant plus difficile.
Je vais reciter en substance Alexandre Jardin qui disait l'autre jour sur X, on peut supporter une augmentation des prix de l'alimentation, on peut supporter une augmentation du prix à la pompe, on peut supporter l'augmentation des normes, mais il y a quelque chose qui est vraiment insupportable, c'est le mépris. Et je crois je me suis vraiment reconnue dans les mots d'Alexandre Jardin. Je crois qu'il a vraiment raison et que quand on sème le mépris, on récolte la haine. Et je pense que cette haine est accentuée. Bon, donc il y a le mépris que les Français ressentent, qui est palpable. Enfin, je veux dire, c'est quand même difficile de pas le voir, je trouve. Et en plus, associé à ça, je pense qu'il y a l'accusation de la part du peuple français que les élites ne sont pas forcément légitimes pour l'être. C'est-à-dire, ces élites autoproclamées le sont-elles vraiment en réalité ? Comptent-elles pour se positionner en tant qu'élite ? Et tout ça, je pense, germe les ferments de la révolte, il me semble.
Et est-ce que vous pensez, pour prolonger la question, Rémi, il y a aussi la haine qu'on récolte, évidemment, et c'était inéluctable, mais même avant que Macron existe, même avant que cette sécession des élites que Lâche décrivait des années 90, est-ce qu'il n'y a pas toujours eu un mépris de classe ascendant ? Vous prenez comme exemple, très juste, vous parlez des groseilles. La vie est un lefeuve tranquille. Bon, on voit dans ce film-là qui immonde pour plein d'endroits, plein d'égards et pour des raisons, on a raison de le détester par endroits. Mais il y a quand même des vérités. Dans cette vérité, on voit que les deux familles se détestent l'une et l'autre. Les groseilles détestent les du quénois ou le quénois, je ne sais plus comment il s'appelle, et inversement. Est-ce que, en fait, le mépris de classe n'est pas malheureusement dans les deux sens ?
Alors, en fait, j'imagine qu'à partir du moment où vous avez des classes sociales et qu'elles existent, forcément, il y a des rapports de tension entre ces classes sociales. Les unes, peut-être, d'envie, les autres, de mépris. Et d'ailleurs, c'est assez frappant de constater que dans les personnes qui s'auto-proclament comme étant des transfuges de classe, des personnes qui se sont hissées, assez souvent, elles portent un regard condescendant sur le milieu dont elles sont originaires. Donc je pense que c'est inhérent à l'existence des classes. Personnellement, je ne suis pas forcément pour la disparition absolue des classes et une sorte de communisme social généralisé. En revanche, il me semble que pendant un certain temps, il y avait, en tout cas dans l'éducation qui était donnée au sein de la bourgeoisie, une forme de décence. Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça la décence commune, puisque là, on parle vraiment de milieu de la bourgeoisie. Il y avait une forme de décence qui consistait à dire qu'on devait toujours respecter les autres, en l'occurrence son prochain, quel qu'il soit. Et bien évidemment qu'on avait conscience, on avait une conscience de classe, bien évidemment que tout le monde a su à quelle classe il appartenait et qu'on n'était pas forcément du même milieu. D'ailleurs, il y a cette phrase assez connue, un petit peu vulgaire, mais on n'a pas élevé les cochons ensemble. C'est assez représentatif. Mais en dépit de cette conscience d'appartenir à une classe potentiellement supérieure, il y avait une retenue, une décence qui faisait que on ne s'adressait pas de manière complètement humiliante et méprisante à des personnes qui n'étaient pas de son milieu social. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette décence, elle a un petit peu volé en éclats.
Marc Aubryon.
Oui, dans votre livre, vous évoquez également donc le rôle décisif joué par la culture, notamment post-mitterrandienne, de la façon dont elle a fait un travail de sape pour justement dénigrer les classes prolétaires. À quand vous remontez vraiment ce moment précis? Vous parlez notamment d'Esprit Canal, qui avec les fameux des chiens, qui remontent à ce moment précis où vraiment on a commencé à voir cette chose se répandre à la télévision. Est-ce que pour vous c'est programmatique déjà, ou est-ce que c'est un peu l'air du temps qui a provoqué ça?
Je pense que c'est vraiment, je pense que c'est l'air du temps. J'ai l'impression que c'est très largement inconscient. Les premiers éléments, j'étais d'ailleurs moi-même assez étonnée de découvrir en écrivant ce livre. Je connaissais le personnage du Beauve de Cabu, mais j'ignorais qu'il remontait à aussi longtemps. Et en m'intéressant en fait aux origines de l'émergence de la figure du Beauve, j'étais assez étonnée de voir que effectivement ça avait commencé, comme on l'a dit tout à l'heure, au moment de mai 68, avec cette scission entre les étudiants et les classes ouvrières. Et ensuite, Terra Nova, ce n'est venu qu'après finalement, c'était dans les années 80. Terra Nova a fait un petit peu son beurre de ça et a préconisé le prolétariat de substitution, c'est-à-dire le prolétariat qui venait de l'immigration. Mais en réalité, les racines avaient déjà 15 ans auparavant. Effectivement, il y a également le poids du soft power américain, je pense, qu'il joue aussi beaucoup, puisqu'il véhicule énormément de notions. Bon, j'en parle pas mal dans mon livre, mais notamment le wokisme. Et tout cela vient accentuer la représentation symbolique négative du petit blanc prolétaire. En France, on va dire les petits blancs, mais par exemple, aux États-Unis, il y a un mot qui est très méprisant qui dit white trash. Donc, c'est vraiment le blanc qui est le plouc, en fait. Ça, c'est vraiment l'équivalent du plouc. Il s'habille mal, il se tient mal, il mange mal. Et cette notion-là, elle est assez présente aussi aux États-Unis. Donc, je pense qu'il y a la convergence de plusieurs phénomènes, mais ce n'est pas un projet politique, en tout cas. Je ne crois pas qu'il y ait un projet politique d'instauration d'un mépris de classe. Je ne pense pas du tout.
Et à quel moment le mépris devient de la haine? Quelle est la différence entre les deux?
Je serais tentée de dire que la haine se manifesterait par une forme de violence, peut-être verbale et même physique, qui ferait basculer de quelque chose de plus abstrait et de plus symbolique à quelque chose de concret. Je pense que c'est... Hélas, d'ailleurs, peut-être plus une différence de degré que de nature. Aujourd'hui, on se permet des phrases méprisantes. On n'est pas encore sur des propos franchement haineux. La plupart, enfin, je pense, j'espère en tout cas.
Et vous pensez que la réaction, ou en tout cas les consignes données en 2018 pour la maîtrise de l'ordre, là, le maintien de l'ordre, pardon, voilà, c'est les termes techniques, relevaient d'un mépris de classe sur les gilets jaunes? Ils ont autorisé des choses qu'ils n'avaient jamais autorisées pour d'autres manifestations, et surtout pas pour les petits anges et les Anglais.
Exactement. Moi, je suis très frappée. Quand j'ai commencé à écrire mon livre, je me suis d'abord intéressée à la géométrie, la géométrie variable qu'il y avait dans les décisions de justice. En tout cas, ce qui apparaît. Et en fait, je me suis aperçue que cette géométrie variable, on la retrouve aussi dans la façon dont la répression policière est exercée. Donc il ne s'agit pas du tout là d'accabler les forces de police qui ne font que...
Obéir
aux ordres, exactement. Mais c'est frappant, mais même dans les... Je suis très sensible aux images et aux représentations. quand vous avez récemment, en décembre
en Ariège,
des gendarmes qui avancent en rang serré avec des boucliers, enfin, on est dans quelque chose d'offensif, on est vraiment dans une quelque chose de l'ordre de l'attaque. Et vous avez derrière les paysans non armés qui reculent et qui se mettent à genoux. Cette image-là, vous avez vraiment d'un côté la force et de l'autre côté la faiblesse. Vous avez ça. Quand vous regardez des images d'émeutes urbaines, quelles qu'elles soient, vous avez, c'est l'inverse en fait. Ce sont les forces de police qui se protègent derrière des boucliers, qui se prennent des projectiles, des injures, qui n'osent pas bouger. On dirait qu'ils osent à peine respirer. C'est assez frappant quand même de voir cette différence de réaction. Et on est tenté de se dire, il y a des populations, il y a des émeutes que l'on craint. Et d'autres que l'on ne craint pas. Ou en tout cas, il y a des émeutes dont on craint les débordements et d'autres dont on ne craint pas les débordements.
Il est presque 18h, vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous recevons Diane de Bourguedon pour son livre Les Indésirables, la prolofolie. Mais vous savez, chers amis, que si vous êtes un plou qui est un prolo et que vous pouvez encore vous éduquer grâce à nous, c'est vraiment très méprisant, je fais mon Yann Barthès, c'est parce que c'est une radio libre et qu'une radio qui dépend uniquement de vos soutiens. Donc écoutez ce petit message, on se retrouve tout de suite après.
Radio Courtoisie, libre, sans publicité, sans subvention. 1,5 million d'auditeurs par semaine, des milliers d'écoutes en ligne. De 13 ans à 99 ans, vous nous écoutez. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter en ligne. Désormais, les podcasts de Radio Courtoisie, les émissions de Radio Courtoisie viennent à vous gratuitement. Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Restons courtois. Arthur de Vatrigan.
Vous êtes toujours dans Restons Courtois, l'émission de débat de Radio Courtoisie. Nous sommes avec Diane de Bourguedon pour son livre Les Indésirables, prolophobie, publié chez Fayard dans l'édition Pensée Libre, dans la collection Pensée Libre, pardon. Et vous savez qu'à 18h, c'est l'heure de la chronique de Rémi Carlu. Donc Rémi Carlu, avec son sens très à propos de l'actualité, je précise que c'est Rémi qui écrit cette phrase, va vous parler de l'Indochine française.
Quelle ironie. Détrompez-vous, cher Arthur, l'état de nos relations avec l'Algérie le prouve, la vogue de la cancel culture et la haine de l'Occident le démontre. La colonisation est sans doute l'un des sujets les plus brûlants, peut-être celui autour duquel, selon la grille de lecture qui l'emportera, se joue l'avenir de notre civilisation. Du reste, après avoir regardé pour la 20e fois le Dien Bien Phu de Schoendorfer et pleuré encore sur ces scènes miroirs entre le concerto de l'adieu à Hanoï et la débandade dans la cuvette, j'attendais patiemment un prétexte pour vous parler de l'Indochine, et voilà qu'à mon grand bonheur, les éditions Perrin faisaient paraître les mémoires de Jacques Allaire. Intitulé « Lieutenant de Bijard, Indochine 1945-1954 », ces mémoires retracent l'histoire de ce personnage haut en couleur, libraire de son état, engagé dans le maquis à 20 ans, et qui, malgré son handicap à la jambe, réussit, en trichant lors de la visite médicale, à intégrer la prestigieuse 2e DB du général Leclerc, envoyé fin 45 pour reprendre l'Indochine aux mains des Japonais. Ses mémoires sont donc un témoignage de première main sur ce que fut l'Indochine française et sur cette sale guerre qui nous enleva la perle de l'Empire.
Revenons au point de départ. Quand et pourquoi la France a-t-elle conquis l'Indochine ?
Eh bien, nous sommes en 1859, lorsque le vice-amiral Rigaud de Genouilly met le pied à Saigon, cité de 2000 âmes, située au cœur du delta du Mékong en Cochinchine. Le mot d'ordre que lui a donné Napoléon III est simple : protéger les missionnaires catholiques persécutés par l'empereur vietnamien Thu Duc. Mais cette mission dissimule mal un objectif plus stratégique : établir un pied-à-terre pour concurrencer l'influence britannique dans la région et trouver une porte d'entrée commerciale vers la Chine. Très vite, les exploits militaires et diplomatiques, qui sont parfois de simples prises d'initiative sur le terrain sans concertation avec Paris, font le reste. La Cochinchine est annexée en 1862, le Cambodge accepte un protectorat l'année suivante de peur d'être envahi par ses voisins, puis viennent les difficiles conquêtes de l'Annam et du Tonkin dans les années 1880, après d'âpres campagnes militaires contre les forces chinoises et les pavillons noirs, ces terribles milices qui tenaient au nord les rives du fleuve Rouge. En 1887, l'ensemble de ces territoires est réuni sous le nom d'Union Indochinoise, auquel est bientôt intégré le Laos. Au même moment, en métropole, pour laver l'affront que constitue la perte de l'Alsace-Lorraine, la France de la Troisième République se convertit pour de bon à l'esprit colonial. Gambetta, Ferry, Renan, Hugo, pour tous, la France, race supérieure, a pour mission de civiliser les peuples arriérés. L'Indochine devenait une question de puissance et de grandeur.
Et qui étaient les Français partis vivre en Indochine ?
Eh bien, cette colonisation n'a rien à voir avec l'Algérienne. Au plus fort de sa présence dans les années 30, la population française n'y a jamais dépassé les 40 000 personnes sur près de 25 millions d'habitants. Beaucoup sont des fonctionnaires venus administrer la colonie, d'autres sont des propriétaires de plantations ou directeurs des grandes maisons de commerce. Il y a bien sûr les militaires et enfin ce qu'on appelle les petits blancs, sorte d'aventuriers venus chercher en Indochine une vie nouvelle après des déboires en métropole. Et cette Indochine, les Français l'ont sincèrement aimée. C'est le fameux mal jaune dont Jacques Allaire fut victime. À trois reprises, il retourna en Indochine, laissant femmes et enfants en métropole, parce que cette métropole, justement, lui devenait comme étrangère à mesure qu'il s'immergeait dans cette fascinante Indochine. La France envoyait des hommes pour transformer ce pays, mais c'est eux qui étaient absorbés par lui. Il faut dire que la vie y était douce, entre la terrasse du Continental de Saigon où l'on sirotait des verres en costume de lin, entre les fumeries d'opium où l'on allait s'étourdir entre camarades, entre les belles Kongaï, ces vietnamiennes dont on admire la douceur, la grâce, le mystère, et dans les bras desquelles on aimait se perdre.
Que la France a-t-elle apporté à l'Indochine et réciproquement ?
Bien, sans être parfaite, l'œuvre de la France y est spectaculaire. Elle réussit peu ou prou à pacifier un territoire en proie à la violence et menacé d'invasion par ses voisins chinois et siamois. Des infrastructures publiques poussent aux quatre coins de l'Indo, ports, hôpitaux, chemins de fer, routes, écoles, télécommunications, voies d'eau. Sa capitale, Hanoï, se couvre d'une architecture remarquable et encore remarquée, avec sa cathédrale néogothique, son magnifique théâtre municipal ou son prodigieux pont d'Oumer. La médecine connaît des progrès spectaculaires, sous la houlette de figures exceptionnelles comme Alexandre Yersin, ce disciple de Pasteur tombé amoureux de l'Indochine. La mortalité infantile recule, certaines épidémies sont enrayées. Sur le plan économique, on modernise l'agriculture et on introduit l'EVA, cet arbre à caoutchouc dont la culture, qui repose souvent sur du travail forcé, fait la toile de fond du film Indochine avec Catherine Deneuve. En contrepartie, la France y récupère du riz, du charbon, de l'étain, ce qui bientôt fera de l'Indochine le joyau économique de l'Empire. Mais prenons garde, si certains particuliers s'enrichissent de manière spectaculaire, et si la France tire des profits importants de son monopole sur l'opium et sur l'alcool, la colonisation indochinoise lui aura toujours coûté sur le plan financier, car l'essentiel était ailleurs.
Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et qui rendait la séparation inévitable ?
Bien, une raison historique d'abord. Les peuples indochinois sont issus de civilisations très anciennes avec une tradition millénaire de résistance à l'occupant. De là, une raison culturelle. La France est prise dans un paradoxe du fait de sa mission civilisatrice. D'un côté, elle veut imposer sa culture, en témoigne l'obligation d'utiliser les caractères latins, mais de l'autre, elle souhaite sincèrement valoriser la culture indochinoise. C'est à la France que l'on doit par exemple, par l'entremise du naturaliste Henri Mouhot, la redécouverte du temple d'Angkor, dont la rénovation sera pilotée par l'école française d'Extrême-Orient, qui par ailleurs catalogue les langues, étudie l'histoire indigène, promeut les arts locaux. En somme, la France démontrait la richesse d'une civilisation tout en voulant légitimer son hégémonie sur elle. Ces deux termes étaient contradictoires. De là, une raison philosophique cette fois. Les élites indochinoises, formées à Paris, ce sera le cas d'Ho Chi Minh, s'y sont imprégnées de la philosophie des Lumières et reviennent avec une obsession en tête, l'indépendance. Cette aspiration rencontre, dès la fin de la Grande Guerre, les grands prêches du président américain Wilson sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. De là, enfin, une raison politique. La France n'a jamais su inventer une autre forme de partenariat avec l'Indochine qui puisse accorder à celle-ci son indépendance pleine et entière, tout en préservant cette relation privilégiée nouée depuis un siècle. Dès lors, l'issue ne pouvait qu'être fatale, et dès 1940, la présence japonaise en Indochine fait perdre à la France son aura d'invincibilité. Ses temps sont comptés.
Et tout se termine avec la mythique bataille de Dien Bien Phu en 1954, mais pourquoi la France l'a-t-elle perdue ?
Bien, à l'époque, malgré les exploits militaires du roi Jean de l'âtre de Tassigny, tout le monde a compris que c'en était fini du rêve indochinois. Mais personne ne sait comment y mettre fin proprement, la faute à l'instabilité chronique de la 4ème République, qui voit se succéder 19 gouvernements entre les 9 années qui séparent le début et la fin de la guerre. Les communistes, quant à eux, se livrent au sabotage, l'opinion publique dénonce la sale guerre, bref, gouverneurs et généraux sur place sont livrés à eux-mêmes. Arrive donc Dien Bien Phu, véritable piège qui s'est refermé sur qui croyait l'avoir tendu. Sur les ordres du général Navarre, Jacques Allaire fait partie des premières à sauter sur la cuvette pour mettre au point une base empêchant aux troupes de Jap l'accès au Laos. On ne sait pas bien s'il s'agira d'un camp retranché ou d'une base à partir de laquelle rayonner dans la région, mais sur de même, les Français se persuadent qu'elle est imprenable et espèrent même un combat frontal avec les Viettes, les montagnes environnantes étant censées les empêcher d'y masser une artillerie lourde. C'était sous-estimer ces mêmes Viettes qui, désormais soutenues par la Chine maoïste, organisent de grandes voies d'acheminement dans la jungle que l'aviation française ne repérera jamais. Les Français sont donc encerclés et font face à des troupes infiniment plus nombreuses. Très vite, les collines au nom féminin, Béatrice, Gabrielle et Liane tombent. Allaire est parachuté une seconde fois sur Dien Bien Phu avec les paras du merveilleux Bijar. On tente des contre-offensives qui doivent se replier faute de soutien. Le commandement est défaillant, les Américains n'arrivent pas. Bientôt, ce seront des volontaires qui seront parachutés, de nuit, parfois sur les lignes ennemies. Oh, ils savent que tout est perdu, mais ils sautent pour les copains. Ils nous donnaient des leçons de courage et d'héroïsme pour 1000 ans, mais ils ne pouvaient arrêter les vagues Viet qui déferlaient bientôt sur le PC central. Vinrent alors l'épouvante marche dans la jungle, puis l'horreur des camps de rééducation dont 70% des prisonniers ne reviendront pas. Allaire, lui, fera partie des heureux élus. Les accords de Genève de juillet 54 coupent le Vietnam au 17e parallèle. 1 million de Viet quittent le nord communiste pour se réfugier au sud. Seuls 130 000 font le chemin inverse. Ils voulaient l'indépendance, ils auront le communisme. Les soldats français, eux, doivent évacuer et tapent sur les mains de leurs compagnons indochinois d'hier qui tentent de s'accrocher à leur camion. C'en était fini de l'Indochine française.
Merci Rémi Carlu, ça donne envie en effet de revoir ce merveilleux film de Schwendorfer. Du titre de Dien Bien Phu, qui me rappelle d'ailleurs un excellent magazine qui avait fait pour les 70 ans de cette triste bataille, cette une Dien Bien Phu, notre honneur, leur trahison. Ce magazine s'appelait L'Incorrect. Diane de Bourgadon, est-ce que je me dis naïvement, s'il y a bien un endroit où il n'y aura plus de mépris de classe, c'est dans les tranchées ou dans les cuvettes?
Eh bien, non, je pense que vous avez raison. Je pense que, le service militaire était un moment assez unique dans lequel toutes les couches sociales se retrouvaient mélangées et traitées quand même relativement de manière égalitaire, je pense. À l'heure où, comme je le disais tout à l'heure, la bourgeoisie et les autres Français ne se côtoient plus et ne se parlent plus, retrouver un moment de fraternité serait extrêmement, extrêmement salutaire, en effet.
Et là, ils risquent de se retrouver face à face. Alors, votre titre, c'est Les Indésirables, et votre sous-titre, c'est la prolophobie. Et vous dites que ce n'est pas une idéologie qui est revendiquée. Alors concrètement, ça se manifeste comment? Ce n'est pas une idéologie revendiquée. Comment elle se développe? Comment elle naît? Comment elle se diffuse?
Alors, je pense qu'effectivement, c'est un état d'esprit, un air ambiant qui est présent dans le milieu de la bourgeoisie, dans les familles, qui imprègne un petit peu l'éducation. Je le disais tout à l'heure, autrefois, il y avait une forme de décence qui retenait le mépris dans son expression. Aujourd'hui, cette décence, elle me semble avoir largement sauté. Donc, et puis après, elle se diffuse quand ces personnes arrivent au poste, que ce soit dans le milieu des affaires ou dans le milieu des médias ou dans le milieu de la culture, également de la justice. Principalement, il y a quand même un entre-soi dans tous ces milieux-là. Donc, ce sont des personnes principalement issues de la bourgeoisie qui vont occuper ensuite ces postes-là. Et comme elles ont été habituées à parler de manière complètement décomplexée et libérée de manière méprisante, en tout cas, elles continuent de le faire une fois qu'elles occupent des postes dont certains leur donnent une visibilité. Quand on voit que des paroles de mépris de classe sont aujourd'hui fréquemment proférées dans l'espace public, des politiques, qui des journalistes, des humoristes ou des artistes, on se dit qu'il n'y a plus vraiment de digue en fait à cette discrimination-là.
Rémi Carlu.
Oui, mais ce que je trouve frappant sur la prolophobie, c'est le renversement politique tout au cours du XXe siècle. C'est-à-dire que la gauche était censée être du côté du peuple, aujourd'hui c'est elle qui est majoritairement prolophobe. À l'inverse, la droite, avec Ortega y Gasset, craignait la révolte des masses. Puis aujourd'hui, elle a fait sienne la lecture de Lash sur la révolte des élites. Aux États-Unis, aujourd'hui, le peuple a voté pour Trump. Et J.D. Vance est l'un de ces white trash qui a atteint les plus hautes sphères de l'État américain. Comment vous analysez, sur le plan politique, cette fois ce renversement d'alliance, presque, d'une certaine manière?
Écoutez, autrefois, c'était le peuple qui était révolutionnaire. Parce qu'en fait, les révolutionnaires, c'est ceux qui veulent que les choses changent. Et les classes supérieures qui étaient dans le statu quo. Et aujourd'hui, on est toujours dans la même situation, sauf que le type de révolte a complètement changé. Aujourd'hui, le peuple, je pense, voudrait un arrêt de la mondialisation, parce qu'aujourd'hui, ils sont les perdants de la mondialisation. Donc, ils voudraient peut-être arrêter le train à la fois de la mondialisation et du progressisme social, qui fonctionne d'ailleurs main dans la main. Donc, ils seraient plutôt, je dirais, une force réactionnaire. Ils veulent le changement, mais dans la réaction, peut-être. Alors que les élites sont contentes du statu quo, du progressisme et du mondialisme, et elles souhaitent qu'il perdure. Et il se trouve que, aujourd'hui, les seules formations politiques qui accorde une crédibilité et une écoute aux doléances du peuple. En l'occurrence, ce sont des formations politiques qui se situent à droite de l'échiquier. C'est également le cas aux États-Unis.
Comment, selon vous, on peut réarmer le peuple idéologiquement ? On a l'impression qu'aujourd'hui, le peuple souffre aussi d'une sorte de déshérence intellectuelle. Le peuple était beaucoup plus savant il y a 50 ans, même il y a 100 ans que maintenant. Comment le réarmer ?
Alors, moi, je pense qu'il y a vraiment quelque chose. C'est pas une mince affaire, mais ça passe par l'école. C'est-à-dire que les déconstructivistes, les affidés de Deleuze, Derrida et Bourdieu, sur la base d'un diagnostic qui n'était pas forcément erroné, d'auto-engendrement des élites, ont milité pour la fin de la transmission et l'arrêt de toute verticalité dans l'école et de toute transmission aussi du patrimoine immatériel de la France. Cet arrêt de la transmission pâtit à toute la France, mais pâtit encore plus aux personnes qui ne sont pas dotées, pour reprendre l'expression de Laurence Bloch, d'un capital social et culturel. Si vous voulez, aujourd'hui, les enfants de la bourgeoisie continuent de bénéficier d'un enseignement en général de bonne qualité, un peu à l'ancienne, en tout cas, avec la littérature classique, l'apprentissage de la lecture comme autrefois. Et même s'il y a un abaissement généralisé du niveau, y compris dans ces classes-là, il n'est proportionnellement pas comparable à celui qu'on a dans le reste de la France, qui subit tout simplement les fondements du niveau scolaire. Donc je pense que c'est vraiment... L'école autrefois donnait accès à la culture à des enfants qui n'avaient pas forcément accès à la maison. Il y avait des enfants qui n'avaient pas de livres chez eux. Les livres, ils les découvraient à l'école. Donc c'était une formidable opportunité de se cultiver et de s'ouvrir au monde. Et on a décrété par un égalitarisme fou qu'il fallait arrêter ça. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment un énorme travail de repenser complètement l'instruction.
Rémi.
Est-ce qu'il n'y a pas aussi, je suis d'accord avec vous sur l'éducation, la nécessité d'avoir des élites locales ? Je trouve que c'est un peu ce qu'on a vu au moment des Gilets jaunes, c'est que ce qui a fait la force et l'échec du mouvement, c'est qu'il a été incapable, disons, d'avoir des figures capables de vraiment retranscrire son discours et de le représenter. Quand on compare la France d'il y a 100 ans à celle d'aujourd'hui, à l'époque, il y avait des curés, il y avait encore les familles nobles du coin, les notables qui étaient encore implantés, il y avait le médecin de village. Il y avait des notaires, etc. Aujourd'hui, on voit que toutes les élites socioculturelles se concentrent dans les villes. Il suffit de prendre la question médicale, par exemple, où on a des trous dans la carte. Tous les jeunes diplômés de médecine veulent aller dans les villes ou sur les littoraux. Donc, est-ce que vous partagez ce constat ? Surtout, comment faire pour recréer des élites locales, voilà, qui, par l'exemple, par capillarité, pourront élever ce petit peuple, ou en tout cas le défendre, l'incarner face à des élites parisiennes ?
Oui, vous avez entièrement raison. Ce phénomène de ségrégation géographique, effectivement, il a des répercussions très concrètes. Et aujourd'hui, les professions intellectuelles supérieures et les cadres habitent très majoritairement, sont regroupés dans des centres de grandes villes. En fait, l'exode rural, c'est un phénomène assez ancien, qui remonte au 19e siècle, mais aujourd'hui, il n'a jamais atteint de telles proportions. C'est-à-dire qu'on n'a jamais eu une telle concentration des populations des classes supérieures telles qu'on l'a aujourd'hui et une telle désaffection de la France périphérique. C'est effectivement un enjeu de poids. Maintenant, la question, comment faire pour inverser la tendance et faire que les populations des classes privilégiées investissent à nouveau les territoires, comme on les appelle, c'est compliqué. Parce qu'il y a une question, j'en parlais à l'instant, c'est la question de l'école. Énormément de familles vont avoir beaucoup de réticence à quitter les grandes villes parce qu'elles ont à cœur que leurs enfants reçoivent la meilleure éducation possible et on ne saurait les blâmer d'ailleurs sur ce plan-là. Je vois quand même de ci, de là, quelques initiatives de réimplantation de familles de la bourgeoisie, mais d'une, elles sont extrêmement faibles, enfin minoritaires, et puis deuxièmement, vont-elles être durables ?
Ouais.
Et après, il y a aussi une autre question, c'est celle de la réindustrialisation de la France. Si vous voulez, tant que le 75% du PIB est tiré par le tertiaire et que le tertiaire est majoritairement produit dans les bureaux des centres-villes, si vous voulez, les personnes, il y a l'école, mais il y a l'emploi aussi.
Bien sûr.
Donc il faut à nouveau favoriser la création de valeur dans les territoires, donc dans la France périphérique. Et on n'en prend pas vraiment le chemin parce que ça serait par l'agriculture ou par l'industrie. Et malheureusement, on ne va pas tellement vers ça.
Et justement, comme on est sur l'emploi et la partie l'économie, est-ce que l'intelligence artificielle, la révolution IA qui est en cours, est une menace pour tout le monde ou une menace plus spécifique pour les classes populaires ?
Alors moi, je dirais même l'inverse de ça. Moi, je pense que c'est une menace spécifique pour les cols blancs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'IA menace plus la production intellectuelle, donc la production juridique, médiatique, et même le monde de la formation aussi, pour citer les plus représentatifs, et de la linguistique, que les métiers manuels, en tout cas, qui sont pour l'instant relativement préservés, encore que quand on voit où on est la robotique en Chine, on peut s'inquiéter aussi, mais enfin, en tout cas, ils ne seront pas forcément touchés en premier. Et je me dis par moments que... on se demande à l'instant même comment inverser la tendance, mais peut-être que mécaniquement, enfin peut-être que cela va se faire très naturellement avec le déferlement de l'IA, qui va conduire à ce que énormément de la masse salariale, en tout cas dans l'industrie, dans le monde du service, va être drastiquement diminuée. Enfin, c'est ce qu'on peut imaginer, c'est ce que disent les spécialistes de l'IA, et on aurait une masse importante de personnes diplômées qui se retrouveraient potentiellement sans emploi. Et là, ça peut vraiment énormément rebattre les cartes dans un sens comme dans l'autre, d'ailleurs.
Marc Aubrégon.
Oui, on se souvient finalement que début 20e, Jacques Maritain faisait peu ou prou le même constat. Il voulait combattre un peu cette déshérence, notamment dans les campagnes, via ce qu'il appelait l'humanisme intégral. Finalement, c'est le communisme qui l'a remplacé. Est-ce que l'Église a encore un rôle à jouer là-dedans aujourd'hui?
Alors,
est-ce qu'elle peut le jouer, surtout?
Elle était sur les ronds-points pendant les Gilets jaunes.
Alors, ce qui est assez frappant, c'est de voir qu'aujourd'hui, les franges les plus catholiques dans la population française sont composées de deux populations que tout oppose. La bourgeoisie, plutôt aisée, et une part de la population issue de l'immigration. Et entre les deux, il y a une espèce d'énorme désert qui sont le gros du peuple français. Il y a aujourd'hui un entre-soi dans l'Église. Est-ce que le clergé a conscience de cela? Est-ce qu'il s'en inquiète? Est-ce qu'il a envie d'aller au contact de ces personnes qui sont laissées dans une forme de déshérence, hein, puisque en réalité, ce vide métaphysique n'est pas sans conséquences, et en particulier pour des personnes qui n'ont pas forcément un bagage culturel et social très élevé. En tout cas, c'est une mission qu'elle devrait, je pense, investir. Et d'ailleurs, je tiens à rappeler, à l'époque, en 2018, je crois que j'avais fait partie des signataires d'une tribune dans La Croix qui s'appelait pour un renouveau du catholicisme social, sous l'égide de Guillaume de Prémard, et parce que nous étions sensibles, en fait, aux doléances des Gilets jaunes.
Je rappelle que le pape François avait demandé aux catholiques d'aller aux périphéries. Après, les périphéries étaient très larges. Alors, il y a plusieurs choses. Vous abordez des thèmes très précis pour montrer le mépris de classe se traduit par des injustices. En premier, la justice. Alors, concrètement, quelle est l'injustice dans la justice pour la classe populaire?
Alors, on entend très souvent parler, je trouve, en France, d'un laxisme judiciaire. On entend dire cette expression très souvent. Mais en réalité, la justice, elle est surtout laxiste avec certains et elle est très intransigeante envers d'autres. Et géométrie variable, en fait, qui est une sorte de grille d'analyse qui est apposée, en fait... aux décisions de justice, elle présente une certaine constance, hein, c'est-à-dire qu'il y a peu de variabilité, et en général, elle correspond d'ailleurs plus ou moins à la doxa du wokisme. Donc le wokisme qui conduit à définir le profil des bonnes victimes et des bons coupables. Alors la bonne victime, c'est celle qui est issue d'une minorité, quelle qu'elle soit. Alors ça peut être une minorité de l'immigration, une minorité religieuse, une minorité de genre, une minorité sexuelle, une minorité que sais-je. En général, là, on est plutôt sur un profil de bonne victime. Et le bon coupable, c'est celui qui appartient donc à l'État, hétéro-patriarcat blanc, ou je sais pas quoi, suprémacisme blanc, on l'appelle comme on veut. Et en général, lorsque une affaire se produit et qu'elle rentre dans ce cadre d'analyse-là, là, la justice, elle n'est pas laxiste, bizarrement. Elle s'applique, elle suit les peines du code pénal. À l'inverse, quand les rôles sont complètement inversés et que cette fois-ci, c'est la victime est de l'autre côté et le coupable également, On a l'impression que la justice, que les magistrats cherchent par tous les moyens à alléger, adoucir, voire complètement supprimer la peine. Et il y a mille exemples qu'on peut trouver, et je pense à ça, à celui-ci récemment, puisqu'il y a eu des échauffourées au lendemain du match de la Ligue des Champions, et a priori ça va recommencer prochainement. C'est une redite en fait de ce qui s'est passé l'an dernier, et ça avait pas mal choqué l'opinion publique, les dégradations qui avaient été faites, les intrusions, etc. Et au lendemain de ça, il y avait eu des déclarations très martiales, notamment d'Emmanuel Macron, qui avait dit on sera intraitable, etc. Et puis en pratique, rien, vraiment rien. C'est-à-dire que des policiers qui ont été visés par des tirs de mortier, il n'y a pas eu de peine, presque pas de peine de prison. Enfin, tout a été, et c'est toujours comme ça. En fait, on a l'impression que c'est toujours les délinquants, les jeunes voyous des banlieues qui sont, ils se trouvent principalement responsables d'un grand nombre d'exactions aujourd'hui en France, qui bénéficient de l'indulgence des magistrats. Et quand on n'a pas la chance de faire partie de ces catégories-là, eh bien, on est traité par la justice de manière...
C'est même en amont, parce qu'on se souvient que pendant le confinement, le préfet de police avait ordonné aux forces de police de ne pas inquiéter les jeunes de banlieue pendant le confinement et de les laisser plus ou moins à l'air libre, pendant que nous, on était calfeutrés dans nos appartements à applaudir bêtement les infirmières. Donc il y a toujours...
Bêtement, je sais pas.
Exactement. Et d'ailleurs, je cite effectivement cet exemple dans mon livre. Donc on avait des normes complètement aberrantes où il fallait se signer, vous savez, ces attestations soi-même.
Des auto-attestations
pour sortir une heure ou je ne sais pas quoi. Et pendant ce temps-là, il y avait des consignes qui avaient été distribuées aux préfectures de police, mentionnant explicitement qu'il ne fallait pas faire preuve de trop de zèle dans les quartiers à forte composante d'immigration, et notamment, il me semble que c'était en lien avec les fêtes autour du
Ramadan.
Donc, si vous voulez, la géométrie variable, on allait harceler des familles qui se baladaient sur la plage ou en montagne, et puis par contre, en Seine-Saint-Denis, il fallait avoir la pédale douce.
Oui, mais c'est comme l'avait écrit la comédienne Ariane Ascaride, qui n'était jamais à une pétition, une tribune près, dans Libé, je crois, il avait écrit tout un texte pour expliquer pourquoi il fallait laisser foutre la paix à cette population qui avait besoin de sortir et que ce n'était pas si grave. La population étant les personnes d'origine immigrées de Seine-Saint-Denis. Et je rappelle aussi qu'on avait mandaté des bus et des flics dans ces quartiers-là, en tout cas du côté de la porte de la chapelle, pour protéger les infirmières qui venaient soigner... Les malades, parce que forcément, comme les gens s'ennuyaient, parce qu'il paraît que c'est l'oisiveté, selon Emmanuel Macron, qui crée l'insécurité et le désordre, là, autant dire que pendant le confinement, ils avaient de quoi s'ennuyer.
Ou le goût pour la cascade aussi. Vous savez, le goût pour la cascade crée les rodéos.
C'est vrai, exactement.
C'est vrai.
Comme en plus le trafic était HS, parce que forcément, les points de deal, ça se voyait de plus en plus, ils s'embêtaient un peu plus. Alors, il y a une autre inégalité, c'est la santé. Ben là, pour le coup, étonnamment, à contrario, j'ai quand même le sentiment que l'inégalité de la santé, sur le plan, c'est-à-dire que les classes populaires qui ne bénéficient pas évidemment des mêmes soins et des mêmes dispositifs et des mêmes spécialités de santé que les urbains, pour le coup, c'est un truc qui est très médiatisé. On parle beaucoup de déserts médicaux. Alors, généralement, on en parle entre décembre et mars quand il y a la grippe qui revient et qu'il y a des malades. Alors là, c'est étonnant, c'est que pour le coup, c'est un vrai sujet. On s'intéresse aux classes populaires.
Alors, on parle des déserts médicaux. Ça, c'est vrai que c'est un sujet dont on parle. En revanche, on ne parle pas de l'état de santé et des inégalités de santé au sein de la population. On parle en fait en termes d'offres de soins et d'accès aux soins, parce que c'est aussi assez facile à mesurer, puis ça répond directement aux politiques de santé. On a mis en place des ARS pour que ce soit... l'offre de soins soit bien répartie. Mais la question elle-même des inégalités, on n'en parle pas énormément. Les écarts les différences d'espérance de vie qui se creusent, et notamment de manière de plus en plus accentuée chez les femmes, on en parle assez peu, je trouve. Et j'ai voulu aussi soulever dans mon essai un sujet sur lequel j'avais été assez sensibilisée dans ma carrière de consultante dans le monde de la santé, c'est l'accès à la malbouffe. Et l'épidémie d'obésité qu'on observe dans certaines parties de France et qui concerne de manière très préférentielle les classes défavorisées. Il y avait eu une initiative menée par un député insoumis, Loïc Prud'homme, visant à durcir la réglementation de l'industrie agroalimentaire. Et alors je ne sais pas si c'était par un système de taxes plus importantes ou d'interdiction de taux de sucre, enfin, peu importe, mais il y avait eu cette initiative. Elle existe aujourd'hui dans certains pays comme la Grande-Bretagne. Et en France, cette loi, elle a été complètement vidée de sa substance. On a l'impression que les lobbies du monde agroalimentaire ont eu le dessus en fait, sur ces débats-là. Et j'ai un peu le sentiment que... finalement, comme cette nourriture en général de mauvaise qualité, elle est également peu chère, parce que c'est souvent, on dit souvent d'ailleurs, plus le caddie plus il est gros et plus il est rempli de choses pas chères et de mauvaise qualité. J'ai un peu l'impression qu'on associé à un manque d'éducation qui a été délivré notamment à l'école, on laisse beaucoup de populations mal se nourrir et qu'en fait, globalement, on s'en fiche un peu.
C'est pourquoi peut-être qu'ils sont plus désirables et qu'ils le méprisent davantage. J'ai une dernière question, parce que évidemment, s'il y a un mépris social ou s'il y a une invisibilisation, c'est parce que les médias ne le traitent pas ou le traitent mal. Volontairement ou involontairement, justement, est-ce que c'est conscient ou est-ce que c'est inconscient de la part de la classe médiatique ?
Je pense vraiment que c'est inconscient. En fait, c'est devenu. C'est une manière de penser qui est inculqué dans la bourgeoisie depuis l'enfance, au point qu'en fait, on ne se rend même plus compte. On ne se dit pas, quand on pratique le mépris de classe, je ne pense pas qu'on réalise qu'on est en train de le pratiquer. Et donc, finalement, de fil en aiguille, on en arrive à ce que on est vraiment dans un entre-soi. Donc, toutes les personnes qui habitent dans les grandes villes appartiennent peu ou prou au même milieu social et pensent pareil, apprécient les mêmes choses, méprisent les mêmes choses. Donc, tout le monde va considérer certaines habitudes de vie ou pratiques comme étant absolument épouvantables et méprisables. Et ça devient un air ambiant qu'on est habitué à respirer. Et de là, eh bien, la production, qu'elle soit cinématographique, publicitaire, des séries, etc., elle est à l'engeance, en fait. Elle fait que suivre cette tendance sans que ce soit le fruit d'une réelle volonté, quelle qu'elle soit d'ailleurs politique, sociale ou autre.
Diane de Bourguedon, merci beaucoup. Je rappelle votre livre, Les Indésirables, chez Fayard, dans la collection Pensée Libre. Donc là, je pense que vous pouvez le trouver dans beaucoup de librairies, dans les relais gares, et puis sinon vous pouvez également le commander. Vous saurez tout sur ce qu'est la prolophobie, ce mal qui ronge et qui détruit. Chers amis, nous on se retrouve dans quelques instants, on va parler d'Ava Gardner, la grande Ava Gardner.